19e numéro du Sport Matin, dimanche saison 2023-2024. Dans cette année olympique, nous avons le plaisir ce matin d'avoir avec nous une figure de l'athlétisme français, la bressuéraise Laurence Billy. En football, le duel Boquin de Régional 1 entre Noyobier et Bressuire a vu la victoire des Noyobrais dans une atmosphère un peu particulière, surtout en deuxième mi-temps. Et puis, vous entendrez Christophe Grimpé, conseiller technique de foot en Deux-Sèvres, qui vient de publier le livre Football, coup de pied dans 50 idées reçues. Enfin, en basket, Cholet s'est imposé face au Portel, où il est peut-être suivi avec nous hier soir. Débrief complet dans un instant. Météo de votre dimanche, beaucoup de nuages, quelques éclaircies, pas de précipitations prévues, à part cette petite pluie fine possible en début de journée. Un peu de vent aujourd'hui, le mercure remonte, 2-3 degrés environ à cette heure-ci, environ 10 à 12 degrés pour cet après-midi. Sport Matin Dimanche, c'est parti, bienvenue sur Colline.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Et ce Sport Matin Dimanche démarre donc avec une invitée exceptionnelle, une championne d'athlétisme originaire de Bressuire ayant réalisé une très très belle carrière. Elle est impliquée au niveau de la fédération en vue des prochains Jeux Olympiques de Paris. Laurence Billy répond aux questions de Dominique Cadu.
Laurence Billy, bonjour.
Bonjour.
Un rappel pour les plus jeunes, Laurence, vous avez sans doute le plus beau palmarès sportif en Deux-Sèvres, 10 titres de championne de France d'athlétisme sur 60 et 100 mètres, 2 participations aux Jeux Olympiques en sprint, Séoul 1988 et Barcelone 1992, 3 médailles aux championnats d'Europe, un record de France du 100 mètres en 11 secondes 04. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce bilan d'athlète qui a été commencé à l'UA Bressuire et poursuivi au Racing Club de Paris?
Alors, le bilan, moi je suis assez fière de ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Après, avec le recul, je pense que à la fois j'aurais pu continuer un petit peu plus longtemps et peut-être arriver à faire des choses qui pour moi ne sont pas abouties, comme par exemple une médaille mondiale, et particulièrement sur le 4x100. Sans prétention pour le 100 mètres, parce que le niveau était très très élevé, mais en tout cas sur le 4x100 mètres, chose qu'on n'a jamais fait, puisque notre meilleur, au moment où j'étais athlète, le meilleur résultat était 4e, malheureusement à Barcelone. Sinon, je pense avoir une carrière bien remplie, et ça depuis les années cadettes où j'étais à Bressuire.
Vous auriez aimé descendre sous les 11 secondes?
Ah oui, bien sûr. Ouais, j'ai fait une fois 11-0-0 avec malheureusement un petit peu trop de vent, ce qui n'avait pas été homologué, mais juste après j'avais fait 11-0-4. Mais c'est vrai que faire un chrono avec un 10 devant plutôt qu'un 11, ça aurait été... c'est un rêve et c'était encore un rêve pour beaucoup d'athlètes féminines maintenant.
Et qu'est-ce qui vous a manqué pour atteindre cette barre?
Qu'est-ce qui m'a manqué au moment où j'étais le plus fort, que j'ai commencé à avoir un petit peu de problèmes au tendon d'Achille, qui m'ont un petit peu ralenti dans ma préparation, qui m'ont un petit peu fait poser énormément de questions sur la suite de la carrière, puisque ce tendon était vraiment de plus en plus douloureux. Et pour le coup, j'avais à l'époque 28 ans, j'ai décidé de stopper. À la suite de ça, j'ai eu mon enfant, et je n'ai pas repris derrière. Maintenant, quand je vois toutes les femmes en athlète qui peuvent reprendre et tout ça, mais peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes réathlétisations ou les mêmes préparations physiques. Mais je me dis que s'il n'y avait pas eu ce problème de tendon, peut-être que 2 ou 3 années supplémentaires m'auraient permis de faire moins de 11 secondes.
L'actualité, ce sont les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Quel est votre rôle exact au sein de l'équipe de France d'athlétisme?
Alors, moi, j'ai changé de mission très récemment au sein de la fédération, puisque je n'entraîne plus depuis 1 an et demi. J'ai maintenant la charge du suivi socio-professionnel de tous les athlètes au niveau de la fédération. Et je m'occupe aussi je suis aussi toutes les structures Pôle France implantées sur le territoire. Donc, il y a 8 Pôle France. Et je m'occupe aussi du suivi des stages de spécialité, dans les suivi financier de stage et bilan de stage pour les stages organisés par la Fédération Française d'Athlétisme.
Alors, outre vos 2 participations comme athlète aux Jeux Olympiques, vous avez également été présente aux Jeux Olympiques d'Atlanta, d'Athènes, de Pékin, de Rio et de Tokyo. Paris, est-ce pour vous le plus grand défi? Et votre plus grand défi?
Le plus grand défi, il est à la maison, donc il a une saveur particulière pour tous, pas seulement pour les athlètes, y compris pour les fédérations, les organisateurs. Ça doit être une réussite, et en tout cas on ne doit pas avoir de remords à la fin de ces jeux-là. On doit être satisfait de tout ce qu'on a mis en place et on fera le bilan après. En tout cas, oui, à la maison, on se doit de faire tout pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions et de pouvoir y réussir du mieux possible.
Alors, comment on prépare ces jeux, vous qui avez été athlète, entraîneur, manager? Comment prépare-t-on ces jeux?
Mais ces jeux ne se préparent pas en quelques mois avant. Les Jeux Olympiques, ça se prépare sur 4 ans, une Olympiade. Chaque athlète a cet objectif-là, donc la préparation, elle se fait à long terme et elle se précise sur les mois qui précèdent. Mais en tout cas, cette préparation-là, elle a commencé depuis longtemps. Maintenant, les athlètes peaufinent, essayent de... Voilà, il y a des sélections qui vont être très tôt. Maintenant, il y a aussi une notion de ranking qui rentre en athlétisme qui n'existait pas avant. Avant, il y avait un minima à faire, une perf particulière à faire qui pouvait être sélectionnée, qui pouvait sélectionner un athlète. Maintenant, elle existe encore, cette perf, mais il y a aussi un ranking. Alors, ranking, ça veut dire participer à des meetings haut classés, marquer des points et pouvoir passer à ce niveau-là dans une sélection.
On sait que l'équipe de France d'athlétisme a souffert ces dernières années. Comment peut-on renverser la tendance?
Elle a souffert, oui, elle a souffert parce que le monsieur tout le monde ou les médias ou les instances dirigeantes ne regardent que les médailles. On a manqué un petit peu de chance, on a manqué de réussite, on a des athlètes qui parmi nos meilleurs qui n'étaient pas au rendez-vous pour plusieurs raisons. Il y a eu des blessures, il y a eu des vieillissements. On a un athlétisme jeune qui est en train de monter et qui doit faire ses preuves. Donc oui, on a eu un petit coup de moins bien ces dernières années. Pour autant, tout est fait pour que tout le monde réussisse du mieux possible ou en tout cas atteigne son meilleur niveau le jour J, c'est-à-dire le jour de la compétition des Jeux Olympiques.
Alors nous avons deux athlètes du SBAC, Hugo Hay et Sébastien Michaud, qui pourraient faire partie de l'équipe de France pour ces Jeux Olympiques. Que pensez-vous de ces deux athlètes?
Ils sont tous les deux très sérieux dans leur préparation et mettent tout en œuvre, je pense, pour y arriver. Hugo s'est délocalisé un petit peu pour aller chercher un groupe d'entraînement et des compétences en Belgique. Sébastien est sur place avec un métier qui n'est pas facile, mais pour autant, je pense qu'il met tout en place pour y arriver. Après, comme tout athlète, il faut aller se perfectionner, il faut aller chercher la concurrence, il faut aller chercher la perf, il faut essayer de rentrer dans les meetings qui vont permettre de prendre des points. Et je pense que leur entourage et leur staff font tout pour que ça marche jusqu'à la sélection.
Ils ont le soutien d'entreprises de Sévrienne. Est-ce que pour vous, c'est indispensable pour réussir?
C'est complètement indispensable maintenant, à l'époque où l'on est. La fédération essaye de faire son maximum avec ses budgets, mais on le voit de plus en plus, les athlètes sont à la recherche de partenaires financiers pour peaufiner la préparation, que ce soit pour de l'achat matériel, partir en stage, et oui, c'est indispensable. Et j'espère que les entreprises locales, et je pense, l'ont bien compris pour ces deux athlètes-là.
Vous avez connu l'UA Bressuire et le CO Cerizay, puis le SBAC. Quel est le secret de ce club qui a toujours eu des champions?
Le secret, je ne sais pas s'il y a un secret. Je pense qu'il y a les compétences qui mettent en place un certain nombre de dispositifs pour attirer déjà les jeunes. Et le fait de que ces clubs-là se soient rassemblés est un atout supplémentaire pour l'organisation et l'utilisation de toutes les installations.
Que faire dans un contexte plus général pour que les jeunes aiment et pratiquent l'athlétisme?
Que faire? Déjà, nous, on était surtout basés pendant de nombreuses années sur ce qui était fait à l'école, en EPS, avec les professeurs d'EPS. Je pense que là, ça part de là. Il faut que les jeunes commencent l'athlétisme au sein de l'école et qu'ils puissent après y avoir un palier pour intégrer un club.
Votre exemple.
Ça part de là pour l'athlétisme. Il faut absolument s'aider des profs de PS.
C'est votre exemple. François Jubien vous repère à l'école à Bressuire et vous faites l'athlétisme à l'UA Bressuire.
Complètement. J'ai commencé l'athlétisme en UNSS au collège et comme elle était un acteur du club, elle a su m'attirer et me faire rester au club pour pouvoir faire de l'athlétisme en club au niveau fédéral.
Dernière question, est-ce que vous avez pensé personnellement à l'après-Jeux Olympiques de Paris, vous qui avez une telle et si belle carrière?
Ah oui, de toute façon, une fois les Jeux finis, l'athlétisme continue avec d'autres objectifs. Il y aura la préparation après pour les plus jeunes de 2028. Donc oui, on continue, et moi notamment sur mes nouvelles missions au niveau du suivi socio-professionnel, je continuerai après et on aidera du mieux les athlètes pour préparer une Olympiade suivante.
Laurence Billy, merci et tous nos voeux de réussite pour cette année 2024 et pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup Laurence.
Merci beaucoup.
Bonne journée à vous. Au revoir.
Bonne journée.
Merci Dominique pour cette belle interview de Laurence Billy. La page football avec d'abord la Coupe de France, les 16e de finale qui se jouent ce week-end. On vous rappelle la qualification de Lyon vendredi soir sur la pelouse de Bergerac. Les Lyonnais se sont qualifiés sur le score de 2-1. Ce samedi, Nice s'est imposé et se qualifie sur la pelouse de Bordeaux, 3-2. L'élimination de Nantes sur sa pelouse battue par des Lavallois qui réalisent, c'est vrai, une belle saison. Laval qui s'impose donc, se qualifie sur la pelouse de Nantes, 1-0. Le Puy-en-Velay se qualifie aux dépens de Dunkerque, 2-1. Monaco s'impose, se qualifie à Rodez-Aveyron, 3-1. Brest qualifie à Trélissac, 2-1. Victoire et qualification de Valenciennes, 2-1 face au Paris FC. Et puis le Paris Saint-Germain n'a pas connu de problème. La qualification sur la pelouse de l'US Orléans, 4-1. Les matchs de ce dimanche avec Châteauroux qui accueille le Havre. Clermont est opposé à Strasbourg. Racing joue face à Lille. Toulouse rend à Rouen. Sochaux est opposé à Reims. Saint-Priest joue face au SO Romo. Et puis ce soir, le duel de Ligue 1 entre Rennes et Marseille. Il restera un match à jouer dans ces 16e de Coupe de France, 16e de finale, avec un match qui se jouera mercredi et Fény Aulnois qui recevra l'équipe de Montpellier. On revient au championnat avec en national le match nul vendredi de Cholet face à Villefranche, 0-0. Et des Choletais qui sont toujours aussi mal classés avant-dernier au classement. En plus que le classement ne bouge peut-être, il pourrait se retrouver éventuellement dernier. National 2, les Herbiers et Blois qui se quittent sur un nul, 1-1. Les Herbes Bretagne toujours leader devant La Roche-sur-Yon. La Roche qui s'est imposée ce samedi facilement face à la réserve d'Angers, 5-0. La victoire notée également dans cette National 2 hier après-midi de Saint-Privé-Saint-Hilaire qui s'est imposée 3-2 sur la pelouse de Saumur. La National 3 avec Saint-Philbert qui s'impose face à Château-Gontier à 4-1. Fontenay qui bat les Sables 1-0. Défaite de la réserve de Niort sur la pelouse de la réserve de Laval, 3-1. Sablé battu sur sa pelouse par le Poiré venu s'imposer 2-0. Saint-Nazaire a dominé Chaland 2-1. La victoire de Vertou face à la Châtaigneraie, 2-0. Et puis Choret battu sur sa pelouse par la réserve de Nantes, 3-1. Noté au classement que les Chorésiens sont 8e, juste devant la réserve des Chamois. Régional 1 avec ce duel donc de Beaucain très attendu entre Neuilly-Aubier et qui recevait Bressuire, et c'est Neuilly-Aubier qui s'impose 3-1. Le derby Beaucain donc tourne à l'avantage du FC Neuilly-Aubier. Écoutez le résumé de cette rencontre par Jean-Michel Bernier.
Un match avec deux mi-temps totalement différentes. Neuilly-Aubier a entamé avec ardeur la première mi-temps pendant 5-10 minutes, sans vraiment dominer et sans se créer d'occasion. Et par la suite, le FCB a pris le dessus très nettement, techniquement, avec des occasions. Très bonne mi-temps du FCB, conclu par un but de Loret à la 45e minute. Le trou aurait dû être fait puisqu'il y a eu au moins deux ou trois occasions très très nettes. La deuxième mi-temps a été d'une toute autre facture, une mi-temps dans la confusion la plus complète. Ça a commencé au bout de 5 minutes, à la 50e, par un but accordé sur un corner pour Neuilly-les-Aubier, alors qu'un défenseur de Bressuire a dégagé sur la ligne, mais l'arbitre en a jugé autrement. Je vous laisse imaginer la réaction des joueurs, et un carton blanc pour Léo Loret. Bressuire a entamé cette deuxième mi-temps à 10, qui a été confirmé malheureusement, quand Loret est revenu, par un deuxième carton jaune, donc exclusion définitive. Après, encore une fois, suite de coups francs, de maladresse, d'erreurs d'arbitrage. une mi-temps dans la confusion qui s'est conclue encore une fois par deux faits de jeu curieux. Sur un centre de Neuilly-les-Aubiers, Valentin Pointu, en voulant dégager, a malheureusement mis un but contre son camp. Après, il y a eu un pénalty extrêmement contesté pour Neuilly-les-Aubiers et qui a été tiré à côté. Et en fin de match, dans les arrêts de jeu, Magalèche a mis un superbe coup franc, par contre, qui là aussi était très contesté par les joueurs. Donc un non-match dans cette deuxième mi-temps. Bressuire a montré un excellent visage pendant la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps n'est pas digne d'un match de football. Est-ce que c'est de la faute à l'arbitre? Bressuire a joué à 10, il ne faut pas l'oublier. Bref, la deuxième mi-temps n'a pas été passionnante, sinon en événement.
Merci Jean-Michel Bernier pour ce résumé complet, il y avait de quoi dire en effet. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction de l'entraîneur du football club de Bressuire, Patrick Olive, très déçu lui aussi de la tournure qu'a pris ce match.
C'est surtout une grosse déception parce que je pense que les joueurs ne méritaient pas ni ce scénario ni les buts encaissés. Je considère, alors j'aurai la vidéo du match forcément, mais... dans l'émotion, dans l'instant, je considère qu'on a perdu sans encaisser de but. Il n'y en a aucun des trois qui est valable pour moi. Il n'y a pas faute sur le coup franc, il n'y a pas pénalty, il y a une faute sur notre gardien. Et il y a un ballon qui est sorti sur l'autre. Donc voilà, donc je considère que notre première mi-temps était très 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 bonne, très sérieuse, en maîtrise, avec pas beaucoup d'occasions, mais en tout cas plus dangereux que l'adversaire. On mène 1-0, puis la deuxième mi-temps, c'est un derby qui est parti n'importe comment, avec des décisions qui ont énervé tout le monde, de la tension et... Et il n'y a plus de football, donc j'ai aucun joueur qui m'a déçu ce soir de notre équipe, mais la deuxième mi-temps ressemblait à rien du tout. Et ouais, voilà, ouais. Donc analyser le foot de la deuxième mi-temps, c'est impossible.
Côté président, ça aussi, on est extrêmement déçu, le président bressuirais Stéphane Viau.
On fait une très bonne première mi-temps, on mérite de mener au score, on aurait peut-être pu mettre un deuxième en première mi-temps, mais en tout cas on ouvre le score juste avant la mi-temps, c'était plutôt bien parti. Après une deuxième mi-temps où on prend un but rapidement, j'ai pas pour habitude de critiquer les décisions arbitrales, mais là elles sont quand même sur la deuxième mi-temps, à plusieurs occasions, elles sont quand même difficiles à digérer. Bon après, bravo à Neuilly qui a cru jusqu'au bout. Bon maintenant, c'est pas l'issue du championnat, maintenant il faut qu'on continue à bosser.
Alors évidemment, à côté Neuilly-Aubiers, on est très satisfait du résultat. L'entraîneur Sébastien Cuvier.
Très très content, première mi-temps. On rentre avec ce but à la 46e, voilà, ça nous met un coup de massue. J'ai essayé de faire relever la tête à la mi-temps, corriger certaines choses. Tout n'était pas négatif, mais on n'avait pas assez de fluidité dans le jeu. Alors le derby, le match s'apparente à ce genre de situation. Et puis une deuxième mi-temps où bah, ça se débloque, on égalise. Un peu chanceux sur le deuxième. Et puis oui, ils sont quand même réduits à 10, mais même à 10, cette équipe est érodée, dangereuse. Donc voilà, elle était bon dans l'impact aussi. Je pense qu'on les a un petit peu bougés. Et puis voilà, et puis le troisième but qui clôt le score sur un magnifique coup franc. Voilà, c'est un sentiment de fierté des garçons parce que voilà, on attendait ce match-là déjà par rapport au match aller.
Bien sûr.
Et puis les garçons ont répondu au moins une mi-temps très présent, mais encore voilà, il y a encore pas mal de boulot à faire pour essayer de rester en haut encore. Quoi.
C'était Sébastien Cuvier au micro de Jean-Michel Bernier qu'on remercie pour toutes les réactions donc de ce Neuilly-Aubiers-Bressuire qui a donc vu la victoire de Neuilly-Aubiers, je vous rappelle, sur le score de 3-1. Toujours dans cette régionale, une notée, deux matchs reportés entre la réserve de Chauvigny et Étoile Maritime et entre Thouars et Rochefort. Sinon, La Rochelle qui s'est imposée face à Neuville 1-0 ce samedi et Saint-Jean-d'Angély qui a dominé Guéret 2-0. Reste un match à jouer ce dimanche, la réserve de Poitiers qui accueille l'équipe de Buxerolles. La régionale 2 avec là aussi des matchs reportés entre la SRTS et la réserve de Thouars et Parthenay-Viennet et Montcoutant non plus qui ne se jouera pas aujourd'hui, en tout cas ce week-end. Les deux résultats de cette régionale 2 dans la poule A hier avec Ligugé-Sainte qui se quitte sur un nul 1 partout et puis victoire de Périgny 2-1 sur la pelouse de Dompierre-sur-Mer cet après-midi. Avenir 79 est opposé au Talus et Beaumont accueille un intré régional 2 toujours dans la poule C avec le match nul de Niort-Saint-Liguer ramené de son déplacement à Saint-Yrieix. Hier après-midi, un but partout. Ce dimanche, Échiré-Saint-Gelais reçoit Sireuil. Niort-Saint-Florent s'en va jouer sur la pelouse de la réserve de Libourne et puis la réserve de Choret en déplacement également à Merpin. La régionale 3 maintenant avec la poule à 3 résultats hier avec la réserve de Bressuire qui bat là le 4-1. Mignoxan s'impose devant Aubin-Orthez 1-0. Et puis match nul entre Neuville et Onis AFC. Un but partout cet après-midi. Interbocage reçoit Caponis. Mignalou est opposé à Ozon et Vrine est opposé à Cerise et la poule B de cette régionale 3 avec hier un résultat, la défaite de Vouillé net hein, sur la pelouse de Buxerolles, la réserve de Buxerolles qui s'impose 4 buts à 0. Noté ce dimanche le déplacement du FC Otis sur la pelouse de Château-Larcher et le duel entre Sud de Sévrien et Nord de Sévrien puisque le Pays Mélois accueille à Saint-Sauveur. La poule C de cette régionale 3 avec les matchs qui nous intéressent, qui se jouent cet après-midi, c'est le Vérine qui va jouer à Matin, la réserve de Saint-Flo qui accueille Angoulême-Bassot et puis la réserve de Saint-Liguer, elle qui accueille la réserve de Saint-Jean-d'Angély. On termine bien sûr comme d'hab le foot avec départemental 1 et 2. Départemental 1 avec un résultat hier, la victoire de Hervaux-Saint-Jean qui s'est imposée sur la pelouse du Pays Mexantais 3-0 cet après-midi. Bressuire joue face au Pays de Loing, le Talus accueille Saint-Aubin-le-Clou, Saint-Cerbouillet soit opposé au Gatti Foot, Saint-Vaur-en-Piergeais reçoit Thouars et puis Sud-Gâtine est opposé à Effre-Fort-Praec. La poule nord de départemental 2 et tous les matchs qui ont lieu cet après-midi avec Beaulieu-Breuil face à Neuilly-Aubier, Portugais de Cerizay face au Pays Tenzéen, Coulonges-Toircey qui accueille le Pays Argentonnais, Montcoutant est opposé à Chanteloup-Cour-les-Chapelles, Saint-Sauveur reçoit Cerizay et Terve est opposé au FC Comores. Enfin, cette poule sud de départemental 2 avec ce samedi de résultats, la victoire de Parthenay-Vianney qui s'impose 1-0 face à Val-de-Boutonne, victoire FC du FC Boutonnais face à Beauvoir également 1-0. Les matchs de cette poule sud de départemental 2 suite cet après-midi avec Brulin, poule sud donc de départemental 2, c'est bien ça, Brulin qui reçoit Échiré Saint-Gelais cet après-midi. Chouard est opposé à Mosée sur le Mignon, le FC Otis jouera face au Pays Néo Créchois et puis Frontenay-Saint-Symphorien accueille la Venise Verte. On termine en fait cette page foot avec une autre interview de Dominique Cadu pour évoquer les idées reçues dans le football. Dominique.
Christophe Grimpré, bonjour, conseiller technique de football en Deux-Sèvres, vous venez de sortir un livre, le titre Football, coup de pied dans 50 idées reçues aux éditions Amphora. Quel est votre objectif à travers ce livre ?
Alors bonjour à tous, l'objectif à travers ce livre, ben, c'est comme le titre l'indique, de tordre le cou aux idées reçues dans le sport d'une manière générale et en particulier dans le foot. Je suis formateur donc des entraîneurs, éducateurs depuis 27 ans et j'ai rencontré donc des centaines d'éducateurs en formation et j'ai pu constater au fil des discussions et des formations que beaucoup d'idées reçues avaient la peau dure, voilà, et j'avais envie un petit peu de mettre noir sur blanc ce que je pense par rapport à ces idées reçues.
Est-ce que ce livre s'adresse uniquement aux footballeurs et éducateurs de football ?
Non. Alors, c'est vrai que la cible prioritaire, ce sont les éducateurs de foot, mais les idées reçues que je traite dans le livre parlent finalement du sport en général, dans le domaine technique, tactique, physique, mental. Donc, je traite la pression n'est pas réservée au football, la pression ben, elle touche tous les sportifs. Je traite la composition des équipes, il faut changer une équipe qui gagne. Ben, la composition d'une équipe en sport collectif n'est pas réservée qu'au football, bien sûr, ça touche le rugby et bien d'autres sports collectifs encore. Voilà, et puis ça peut aussi s'adresser évidemment à tous les passionnés de sport, de foot, mais de sport aussi, parents, dirigeants. Et puis, au-delà de ça, j'espère que ceux qui liront le livre trouveront tout simplement du plaisir à lire.
Alors justement, comment peut-on se procurer ce livre ?
Alors, comment peut-on se procurer ce livre ? Ben, tout simplement dans de multiples librairies. Il est en vente physiquement dans les librairies depuis le 18 janvier, c'est-à-dire hier.
À quel prix, s'il vous plaît ?
Alors, au prix de 17,50 €. On peut également se le procurer dans les grandes surfaces spécialisées comme la Fnac, Cultura, je m'excuse pour toutes celles que je n'aurais pas citées, ou contacter directement les éditions Amphora.
D'accord. Un petit mot pour finir sur le football de Sévrien. Vous êtes un acteur important. Vous avez formé de nombreux jeunes qui sont aujourd'hui à des postes importants. Quel est votre mot justement sur le football de Sévrien ?
Eh bien, le football de Sévrien, se porte plutôt bien quand même, malgré les difficultés de notre club phare, les Chamois Niortais, qui ont descendu, comme tout le monde le sait, en national. On espère de tout cœur une remontée en Ligue 2. Et puis, je dirais que le département des Deux-Sèvres, ben, c'est un département foot, comme on aime à le dire. Si on prend un indicateur, c'est-à-dire le pourcentage de gens pratiquant le football par rapport au nombre d'habitants, on fait partie des meilleurs départements en France. C'est un département de culture foot. Et malgré les aléas sportifs de certains clubs, j'ai parlé des Chamois Niortais, la culture foot reste forte dans les Deux-Sèvres.
D'accord. Christophe Grimpré, merci en tout cas. Et puis je rappelle le titre du livre, Football coup de pied dans 50 idées reçues aux éditions Amphora. Merci encore, Christophe.
Je vous remercie aussi.
Bonne journée, au revoir.
Et bon dimanche à tous.
Merci.
Merci beaucoup, Dominique. Parle basket et Betclic Elite avec, vous l'avez peut-être vécu donc avec nous hier soir sur Colline, la victoire de Cholet face au Portel 89-82. Analyse du coach de Cholet, un entraîneur satisfait de ce qu'il a vu sur le terrain, Laurent Villa.
La première mi-temps a été de très bonne facture en attaque, avec un super état d'esprit, mouvement de ballon, de l'agressivité, de l'adresse. C'est vrai qu'on s'est rendu les choses faciles à ce moment-là. C'était évident que le match allait pas continuer comme ça en deuxième mi-temps. Les deux équipes ont bien compris qu'il fallait bien défendre, on l'a vu en entame du troisième quart-temps, et puis on a un peu subi à ce moment-là. C'était beaucoup plus sur la ligne de passe, beaucoup plus difficile de dérouler du jeu et d'être agressif, alors que c'est surtout les extérieurs qui mettaient la pression sur la balle. Bon, après on a pu alterner, mais c'était une deuxième mi-temps complètement différente. On a toujours eu 7 points, 10 points. Il y a toujours eu, comme tu dis, ce panier qui a fait plus qu'on a gardé l'écart. Défensivement, pareil, on a alterné avec des stops, des relances et puis des paniers faciles, tout donner aussi. On a du mal à s'adapter sur le jeu low post de Vautier, qui a plutôt joué la distribution que le fait de vouloir scorer, parce qu'on était orienté sur une trappe en fait pour le stopper. Alors, par contre, on a fait une très très bonne défense. C'était aussi une des cibles contre Maxouni qui a marqué 0 points finalement. Et ils ont besoin de lui pour contrôler totalement le jeu. Aujourd'hui, le travail des extérieurs sur la pression du terrain et des intérieurs pour sortir était parfait face à lui. C'est un style de jeu. Et grâce à Greg Randall déjà qui influe cette confiance, eh bien ensuite on peut continuer comme ça. On peut contaminer une équipe négativement et on peut la contaminer positivement. Aujourd'hui, c'est très positif et c'est ce qu'on recherchait avec lui.
Malgré une baisse de rythme, les Choletais ont su maîtriser finalement la rencontre, à l'image de l'ailier Tidjane Salin, une nouvelle fois très bon hier soir. Un Tidjane toujours très observé.
On a un petit peu baissé dans le rythme, mais après on a quand même su maîtriser du début à la fin, grâce à déjà notre premier carton, et voire même la mi-temps, j'allais dire. Donc c'était assez maîtrisé.
Comment est-ce qu'on explique cette petite baisse d'intensité en deuxième période? C'est la faute au Portel?
Je pense que c'est... Je saurais pas expliquer, puisque je pense que c'est sûrement la montée en pression du Portel. Après c'est juste nous, on a fait beaucoup d'efforts dès le début, vraiment beaucoup d'efforts, et ça a fait que forcément il y a des petites baisses d'intensité. Donc je pense que c'est lié à ça. D'abord c'était de gagner, et après forcément on joue le goal à Verrache le plus marqué possible, mais d'abord on pense pas vraiment à des histoires de revanche, c'est gagner. Déjà c'est le premier objectif avant chaque début de match.
On a dû vous poser plein de fois la question et on vous la posera pratiquement à tous les matchs à la Meilleraie. Vous êtes souvent scouté. Comment on vit ça?
Je savais pas. Enfin, je me suis pas occupé. C'est vraiment pas quelque chose qui dans lequel je vais m'occuper à la veille d'un match. C'est quelque chose qui va être lié à plus tard. Mais là, actuellement, j'avais un match. Je vais pas m'occuper des gens qui sont là. C'est des prédictions, donc. Ça sert à rien de s'y fier puisque c'est à 5 mois de la draft, donc franchement c'est pas quelque chose où il faut prendre attention puisque tout peut arriver. Et clairement moi de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je le répéterai toujours, c'est la saison, les matchs d'abord.
Tidjane Salin et Laurent Villa étaient au micro de François Larue et Vincent Nori pour ces réactions, les deux gars qui nous ont donc fait vivre ce Cholet Basket face au Portel hier soir avec la victoire de CB 89-82. Prochaine rencontre à nouveau à domicile la semaine prochaine, samedi prochain en soirée, là également 18h30 si mes souvenirs sont bons, je fais ça de mémoire, et ce sera face à Boulogne-Levallois. La Régionale 3 féminine pour la page basket, des résultats aussi en Régionale 3 féminine, un résultat surtout, c'est le Pays Argentonais qui s'est imposé d'un petit point hier à Port-d'Envaux, 53-52. Puis en Régionale 3 masculine, ça joue en fait cet après-midi pour Bressuire en déplacement à Marcy. Le handball, la D2 féminine avec la large victoire, belle victoire des Célois. Celle sur Belle s'est imposée au Pouzin à 30-16. En National 1 féminine, la défaite par contre de la réserve de Celle sur Belle, battue dans sa salle par l'équipe de Nantes, 28-22. National 2 féminine, défaite aussi pour les Montcoutantaises en déplacement à Bléré. Bléré s'est imposé 28-19. En National 3 féminine, sachez que Praec s'est imposé face à l'équipe de Depam, 33-22, tandis que Lezay s'est imposé en déplacement à Rochefort, 23-18. L'après-national masculine avec Lezay sur Lezay, celle qui s'impose face à l'Entente Territoire Charente, 34-26. Et puis la victoire aussi pour Niort-Souchet face à Biard, 37-26. Cet après-midi, Montcoutant reçoit J.A. Hill. Le rugby avec la Champions Cup pour ce week-end en ce qui concerne La Rochelle. La Rochelle qui doit s'imposer en déplacement à Sale cet après-midi pour pouvoir continuer l'aventure européenne. Eux, les doubles tenants du titre de cette Champions Cup en National 2 cet après-midi. Niort est en déplacement à Anglet. La Fédérale 3 avec Angers qui reçoit cet après-midi Partenay, et puis Choret qui reçoit les Sables d'Olonne. En Régional 2 Nouvelle-Aquitaine, le COP 79 est opposé à Chauvigny, et puis dans les Pays de la Loire, Thouars accueille Saumur. La Régionale 3 avec cet après-midi Entente Niort qui reçoit Marcigny, Mel est opposé à Villefagnan, et puis Saint-Mexan qui reçoit l'ASC Poitiers. Un petit mot d'athlétisme, on arrive à la fin de ce Sport Matin Dimanche. Un petit mot d'athlétisme avec le trail des Sentiers Bressuirais hier. Sachez que sur le 10 km, c'est Antoine Gasnier du SCO Angers Athlée qui l'a emporté en 41 minutes 50 devant Sylvain Caquino en 42 minutes 30, et puis le bassiste Jocelyn Grignon qui a parcouru la distance en 44 minutes 11, la première féminine, et Flavie Brémaud, elle est quatrième, elle a parcouru la distance en 44 minutes et 24 secondes. Et puis sur le 20 km, c'est Vincent Marot qui s'impose de l'Entente à Sèvres en 1h24 minutes 13 secondes devant deux bassistes, Nicolas Onillon en 1h24 minutes 55 et Olivier Vergniaud en 1h26 et 59 secondes. Et puis la finale des internationaux de Bressuire en tennis cet après-midi à partir de 15h avec les jeunes outsiders qui se sont imposés face aux têtes de série hier après-midi, puisque Arthur Bouquier a éliminé Eliakim Koulibaly 7-5 6-1 et Mai Malige s'est offert à Kenny de Schepper 7-6 6-4. N'hésitez pas à vous rendre donc au centre départemental de tennis à Bressuire avec cette finale donc à partir de 15h cet après-midi. Vous allez voir du beau tennis. Voilà, c'est la fin de ce Sport Matin Dimanche.